Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Contestation en Algérie, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne, a opposé une fin de non-recevoir aux revendications des manifestants qui réclament la mise en place d'institutions de transition ad hoc pour gérer la situation découlant du départ de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission le 2 avril. La présidentielle prévue le 4 juillet, dans les délais prévus par la Constitution pour élire un successeur à M. Bouteflika, est la solution idéale pour sortir de la crise, a affirmé le général Ahmed Gaïd Salah dans un discours mardi. Le même jour, le FLN, le Front de Libération Nationale au pouvoir, a élu un nouveau secrétaire général. Le député et homme d'affaires Mohamed Djamaï, 50 ans, remplace Mouad Boukareb, désigné par Abdelaziz Bouteflika l'année dernière. Mouvement de contestation au Soudan, le principal groupe de partisans du changement a appelé à une marche d'un million de manifestants jeudi, après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef Abdel Fattah al-Burhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
Objet de nombreux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition. L'un des chefs de l'association Fer de Lance de la contestation a accusé les militaires de ne pas vouloir céder le pouvoir au peuple. Le conseil militaire maintient que le conseil conjoint souverain devrait être dirigé par les militaires avec une représentation civile, a critiqué Mohamed Nadi Al-Assam, dénonçant la tentative des militaires d'accroître leur pouvoir quotidiennement. Les militaires ont annoncé la mort de 6 membres des forces de sécurité, tués selon eux dans des heurts avec les manifestants. L'association des professionnels soudanais les a accusés d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, ce que nient les militaires. L'Alliance pour la liberté et le changement a alors appelé à une marche 2 millions de manifestants pour demain 2 mai 2019 afin d'affirmer sa principale revendication, un pouvoir civil.
Au Congo-Brazzaville, les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison, ont été durcies par les autorités. Ses avocats dénoncent ce qu'ils appellent une nouvelle violation des droits de l'opposant. Le point avec Ekia Badou.
Je n'ai plus eu accès au général Mokoko depuis 10 jours, a déclaré maître Yvon-Éric Ibwanga, l'un de ses avocats. Il a affirmé que le régisseur de la maison d'arrêt lui a fait savoir qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie d'interdire toute visite à son client qu'il a définitivement condamné. Maître Ibwanga a ajouté que Monsieur Mokoko est enfermé 24 heures sur 24 et qu'il a vraiment besoin de passer des examens de santé vu les conditions de son enfermement. Âgé de 72 ans, le général Jean-Marie Michel Mokoko, ex-chef d'état-major de l'armée, était conseiller du président Denis Sassou Nguesso et s'est présenté contre lui à l'élection présidentielle de 2016. Il a été arrêté en juin 2016 après avoir refusé avec d'autres candidats de reconnaître la victoire de Monsieur Sassou Nguesso. Le général Mokoko a été condamné en mai 2018 à 20 ans de détention criminelle pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État à l'issue d'un procès qu'il a qualifié de règlement de compte politique.
En Guinée, poursuite du bras de fer entre les partisans et les adversaires d'un possible troisième mandat pour le président Alpha Condé. Des heurts ont eu lieu mardi dans deux villes du pays entre les supporters des camps rivaux. Il y a eu des blessés et des arrestations, Morgane Guiriec.
Les tensions entre partisans et opposants d'un troisième mandat du président Condé sont survenues à Kankan, dans l'Est, et à Sangaredi, dans l'Ouest du pays. À Kankan, un fief de M. Condé, des manifestants ont scandé des slogans comme « Non à un troisième mandat pour le président ». Des militants du pouvoir ont tenté de leur barrer la route. Le barrage a éclaté, il y a eu plusieurs blessés et au moins 12 opposants ont été arrêtés. À Sangaredi, les manifestants ont scandé 2020 sans Alpha Condé. Les forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Le président Condé a été élu en 2010, puis réélu en 2015. Ses opposants, qui le soupçonnent de vouloir modifier la constitution pour briguer un troisième mandat, ont créé début avril un front regroupant les partis politiques d'opposition, les syndicats et la société civile. Monsieur Condé, 81 ans, n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la constitution pour pouvoir se représenter en 2020.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Élection au Bénin, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a finalement annoncé dans la nuit de mardi à mercredi les résultats préliminaires des élections législatives du 28 avril, marqués par un faible taux de participation, seulement 22,99%, soit le plus bas de l'histoire du pays. L'opposition ayant appelé à boycotter le scrutin après n'avoir pas été autorisée à y participer pour des raisons administratives, deux partis proches du président Patrice Talon, le Bloc républicain et l'Union progressiste, se partageront donc les 83 sièges du nouveau Parlement. D'après les résultats publiés, l'Union progressiste recueille jusqu'à présent 645 214 voix pour un total de 47 sièges probables et le Bloc républicain 502 411 voix pour 37 sièges. Les suffrages exprimés s'élèvent seulement à 1 147 265 voix, soit à peine un cinquième des 4 992 399 électeurs inscrits. Le taux de participation à des élections n'était jamais tombé sous la barre des 50% depuis que le Bénin est entré en démocratie en 1990 et est considéré comme un modèle dans ce domaine en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, les élections générales sont prévues le 8 mai, soit 25 ans après les premières élections multiraciales, à l'issue desquelles Nelson Mandela, le premier président noir du pays, a été élu. Mais un quart de siècle après ce scrutin, les espoirs d'une partie de la population noire ont été déçus, et des inégalités profondes continuent de diviser la société sud-africaine. Le reportage de notre correspondante Patricia Yon dans le township d'Alexandra à Johannesburg.
Avec ses cabanes de tôle, ses ruelles défoncées et sa misère apparente, le township d'Alexandra se trouve juste à côté du centre des affaires de Johannesburg, ses immeubles clinquants et ses belles villas. L'apartheid est tombé, mais des inégalités persistantes divisent la société sud-africaine. En 1994, les premières élections multiraciales suscitaient d'immenses espoirs. À l'époque, Patience avait à peine 2 ans. 25 ans plus tard, elle exprime sa désillusion.
Regardez où on vit, des toilettes communes, pas de maison correcte. Je n'ai qu'une seule pièce. Je vis ici avec mes 6 enfants. Pas de travail, nous n'avons rien. Pas d'argent.
À l'approche de l'élection générale qui se tiendra le 8 mai, le Congrès national africain, l'ANC, défend son bilan et promet de lutter contre la corruption qui ronge le parti. Banele Sankosi, secrétaire général de l'ANC à Alexandra.
Rien qu'à Alexandra, nous avons construit 11 300 maisons. Les Sud-Africains peuvent voir que l'ANC est prêt à se corriger et à demander des comptes à ses membres. Et c'est vers ça que nous allons.
Koutso Manjane est né en 1994. Il fait partie de cette génération sud-africaine qui n'a pas connu l'apartheid.
Mon père et ma mère m'ont dit qu'ils étaient heureux quand ils sont allés élire Mandela comme président, parce qu'il y avait la promesse que leur vie allait devenir meilleure.
Aujourd'hui, l'étudiant milite au sein de l'EFF, les combattants pour la liberté économique, un parti de la gauche radicale qui séduit les déçus de la nouvelle Afrique du Sud.
Notre peuple continue de souffrir, d'être exclu de l'économie. Nous ne sommes toujours pas propriétaires des terres.
Des progrès ont été accomplis, des barrières sont tombées. Une certaine mixité raciale s'est installée, au moins dans les grandes villes. Le gouvernement a construit des maisons, étendu l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Une classe moyenne noire a vu le jour. Mais 10% de la population sud-africaine possède encore plus de 90% des richesses du pays. Patricia Huron, Johannesburg, pour VOA Afrique.
Et pour terminer, ici aux États-Unis, le ministre américain de la Justice, William Barr, doit déposer aujourd'hui devant la commission judiciaire du Sénat, contrôlée par les Républicains, après la publication ce mois-ci du rapport de 400 pages du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Monsieur Barr avait conclu dans une synthèse qu'il n'y avait aucune preuve de collusion entre la campagne du candidat Donald Trump et la Russie et que le président américain n'avait pas entravé la justice. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de VOA Afrique.